Chers amis fidèles d'Opéra Agora, bonsoir. Ce soir, c'est à nouveau avec un grand plaisir que nous poursuivons notre cycle Verdi. Nancy Zottier est à la mise en onde. Quant à moi, je vais vous évoquer un opéra particulier dans la production de Verdi, Don Carlos. C'était une commande de l'Opéra de Paris et Verdi, s'inspirant de la pièce de Schiller, a composé un très long opéra en 5 actes en langue française, créé à Paris en 1867. Mais comme souvent, Verdi n'est pas satisfait. Cet opéra est beaucoup trop long. Il va le remanier pendant presque 20 ans, jusqu'à le transformer en 4 actes seulement, au lieu de 5, et le produire en 1884 à la Scala, en version italienne, sous le titre, cette fois-ci non plus de Don Carlos, mais de Don Carlo, avec bien entendu la version italienne. Et c'est un grand succès, car cette version allégée est beaucoup plus digeste. L'action se déroule au XVIe siècle, en pleine Renaissance espagnole. C'est la fin de la guerre entre l'Espagne et la France. Charles Quint est mort. Son fils Philippe II règne. Et son petit-fils, l'infant Don Carlo, est un malade épileptique qui a inspiré Schiller, qui l'a transformé en brillant jeune homme. La condition de la paix avec la France est que Don Carlo épouse Élisabeth de Valois, scellant ainsi une paix durable avec l'Espagne. Don Carlo se rend donc à Fontainebleau, où il rencontre Élisabeth. C'est le coup de foudre réciproque. Mais voilà qu'un messager apporte une lettre inopportune. Finalement, Philippe II, qui n'a pas confiance en son fils, décide d'épouser lui-même la très jeune Élisabeth de Valois. C'est le drame. Raison d'État, Élisabeth accepte d'épouser le vieux roi Philippe. Et tout l'opéra va tourner autour de cette intrigue. Le père et le fils amoureux de la même jeune femme. Ceci est le premier acte de la version en 5 actes, appelée version Fontainebleau. Mais dans la version en 4 actes, celle qui se joue de nos jours, l'opéra commence justement après cette rencontre à Fontainebleau, qui est seulement résumée dans un air du ténor. L'examen du casting de l'opéra nous montre immédiatement qu'il s'agit d'une grande fresque lyrique, tant les protagonistes sont nombreux. Nous avons donc, parmi les principaux, Élisabeth de Valois, soprano, la princesse Eboli et rivale d'Élisabeth, mezzo-soprano, Don Carlo, l'héritier du trône d'Espagne, ténor. Son ami Rodrigo, chef de l'armée espagnole, baryton. Le roi Philippe II, basse. Le grand inquisiteur, basse. Pour les seconds rôles, nous avons Tebaldo, le page d'Élisabeth, soprano, travesti en homme. Et puis une voix céleste, donc sans identité, un soprano. Le comte Lerma, deuxième ténor. Un moine qui serait l'esprit de Charles Quint, basse. Un héros royal, troisième ténor. Et enfin, 6 députés flamands, sans identité, tous les six barytons. Plus évidemment, une masse chorale très importante, incluant le peuple, les dignitaires de l'Église et de l'armée. Le premier acte de la version italienne commence au couvent de San Giusto, où s'est réfugié Don Carlo, tellement malheureux d'avoir perdu Élisabeth, qui vient d'épouser le vieux Philippe II, pour raison d'État. N'oublions pas que Carlo est un épileptique, malade des nerfs, et qu'il est souvent atteint de graves dépressions, d'où son séjour dans ce monastère pour retrouver la paix. Il chante son désespoir dans un premier air, « Io l'ho perduta, je l'ai perdu ». Écoutons Giacomo Arragal, le grand ténor espagnol, à la voix argentée, spécialiste de ce rôle de Don Carlo, que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à diriger. « Io l'ho perduta ». Que Verdi avait déjà rompu avec les arias, romances populaires, qui avaient fait le succès de Rigoletto ou la Traviata. La mélodie est moins facile et davantage dans l'action que dans l'aria de concert. Au monastère, Carlo reçoit la visite de Rodrigo, haut dignitaire de l'armée, que le roi Philippe lui a adjoint pour surveiller sa santé si imprévisible. Carlo a en Rodrigo un ami fidèle, âme droite et noble, servant ardent de la royauté et fin diplomate. Carlo écoute attentivement son ami, qui lui conseille maintenant d'oublier Élisabeth, qui est devenue sa belle-mère, et d'aller en Flandre calmer une rébellion naissante suite aux interminables guerres de Charles Quint. Verdi compose un duo resté célèbre, plein d'ardeur, de fraternité et d'espérance. C'est le très connu moment musical que le public attend. Dio che nell'alma infondere. Dieu qui a mis l'amour dans notre âme. Écoutons ce beau duo, écoutons Placido Domingo et Cheryl Miles. Dio che nell'alma. Libertà!
insieme in terra in cielo congiungere ci può la tua bontà. Dio che nell'alma infondere amor volesti esprimere
jardin du monastère, la princesse Eboli, qui aime Carlo en secret, attend avec son page Tebaldo, le travesti, l'arrivée de la procession royale où se trouve Élisabeth. Eboli chante gaiement un air du folklore mauresque, la chanson du voile. Air pour mezzo-soprano devenu un tube de l'opéra. C'est bien sûr avec cet air surprenant et plein de gaieté, une manière de rompre avec la tension qui règne à l'intérieur du cloître avec la détresse de Carlo et l'inquiétude que fournit cette tombe de Charles Quint avec en prime la présence invisible de la Sainte Inquisition, qui aura un grand rôle dans le dénouement de cet opéra, où flotte sans cesse une odeur d'encens de la très puissante religion catholique espagnole, toujours à l'affût de la naissance du protestantisme, surtout au nord de l'Empire de Charles Quint, c'est-à-dire en Flandre, où Carlo ira bientôt voyager avec Rodrigo en guise de surveillant officiel. Écoutons cette curieuse chanson mauresque. Écoutons Elina Garancha, soutenue par le chœur féminin, chanson du voile. Thank you. La procession arrive. Élisabeth profite de l'absence du roi pour parler avec Rodrigo, qui lui donne des nouvelles de Don Carlo. Ce dernier, bien malade, souhaite avoir une entrevue avec Élisabeth, qui est maintenant reine d'Espagne et donc aussi sa belle-mère. Fontainebleau n'est qu'un lointain souvenir, magique, et maintenant une grande douleur. Rodrigo, ami fidèle et dévoué de Carlo, confesse à la reine combien son ami est malheureux. Et il sait qu'elle l'aime toujours. Et alors Verdi nous compose une petite aria, assez traditionnelle cette fois-ci, pour baryton, en osmose avec le personnage conventionnel d'un Rodrigo très droit, une aria dans laquelle il déclare que, puisque Carlo est leur unique souci à lui-même et à la reine Élisabeth, il convient de s'allier pour lui porter secours, le guérir et lui renouveler amour et amitié. Écoutons cette aria bien dans la tradition belcantiste, écoutons Piero Cappuccilli, baryton, Carlo, che sol il nostro amor. Elisabeth et Carlo se revoient enfin et dans un sublime duo vont renouveler leur impossible amour. C'est d'ailleurs l'un des moments rares où Carlo, qui s'évanouit devant la reine, renoue avec la vraie histoire et la pièce de Schiller, à savoir qu'il est un vrai malade. N'oublions pas que Verdi en a fait, de ce quasi-malade mental, tout simplement un jeune homme brillant, ayant de temps en temps quelques spasmes épileptiques. Mais là, en présence de la reine, eh bien, nous renouons un peu avec la vérité historique du vrai Don Carlo, dégénéré. Il faut cependant que le ténor jouant le rôle de Carlo n'en fasse pas trop et ne tombe pas dans la caricature. J'ai encore en tête les paroles des metteurs en scène, soucieux devant les facéties de certains ténors, en leur déclarant « Attention, joue donc un personnage nerveux et sensible, mais qui doit toujours rester sympathique, et non un débile mental extraverti. » En somme, certainement, ce qu'aurait voulu Verdi. Verdi, qui pour conclure cet acte très long, nous compose un merveilleux duo d'amour et de désespoir entre Carlo et Elisabeth. Perduto ben, amour perdu. Écoutons Placido Domingo et Montserrat Caballé sous la baguette du regretté Carlo Maria Giulini, merveilleux chef de théâtre. Perduto ben. n'est-ce pas? Peut-être l'influence de Wagner. N'oublions pas qu'ils sont nés tous les deux en 1813 et se surveillent mutuellement et peut-être s'admirent mutuellement. Et nous voici arrivés au deuxième acte. Cet acte est presque entièrement consacré à un immense concertato que Verdi nous dévoile toujours pour terminer le milieu de ses opéras par une grande fresque musicale. Nous sommes sur la place royale à Madrid où l'on dresse le bûcher pour les condamnés hérétiques. La cour royale se presse devant le roi et la reine. Les moines présentent les victimes de l'Inquisition. Le faste royal et la cruauté de l'Inquisition espagnole oppressent les malheureux condamnés. Les 6 députés de Flandre que Carlo a ramenés demandent grâce. La grâce est refusée. Carlo ose alors se dresser contre son père. Philippe II demande alors son arrestation. Mais le dévoué Rodrigo convainc Carlo de se rendre. Et une voix céleste s'élève au-dessus de la foule enfiévrée. C'est la fameuse voix céleste soprano sans identité, promettant aux condamnés hérétiques des jours meilleurs au royaume des cieux. Écoutons ce grand concertato par l'orchestre et les chœurs de la Scala sous la baguette de Claudio Abbado. Spuntato è il dì. Le jour est enfin arrivé.
Thank you.
voici maintenant au troisième acte. C'est pour moi l'acte qui contient le plus de beauté musicale. Verdi, très inspiré et au sommet de son expérience théâtrale, nous offre des moments musicaux qui ont fait date en cette fin du romantisme. La première scène se passe dans la chambre du roi Philippe. Le vieux roi évoque les tourments et la solitude de la vieillesse face à la jeunesse de son épouse. Et il compose probablement son plus grand air pour basse. Ella jamai mamo. Elle ne m'a jamais aimé. Bien sûr, c'est son fils Carlo qu'Elisabeth continue d'aimer en secret. Écoutons cet air magnifique par le grand Ferruccio Furnaletto. Je n'oublierai jamais notre Faust de Gounod au festival de Las Palmas où il a incarné un incomparable Méphisto, un très grand artiste. Écoutons cet air magnifique, Ella jamai mamo.
Dormi lo sol veder. Sei certo regal, amere sei poter di lei che è nei cor.
Vous avez écouté l'accompagnement somptueux des cordes de l'orchestre et cette atmosphère de tristesse pesante. Puis arrive le grand inquisiteur. On lui explique que Carlo a trahi sa patrie en voulant soutenir les Flamands contre l'Espagne. Philippe lui demande alors si l'Église le soutiendra s'il condamne son propre fils à mort. La réponse de l'inquisiteur est que Dieu lui-même a sacrifié son propre fils pour sauver le monde. Donc, acte. Il faudra toute l'audace et la diplomatie de Rodrigo pour accepter que Carlo soit épargné et seulement conduit à la prison. Alors, après une scène de jalousie entre le roi Philippe et sa jeune épouse qu'il soupçonne d'adultère, arrive la princesse Eboli qui avoue avoir été l'instigatrice de la perte de Carlos et d'Elisabeth par ses ragots dans la recherche de leur impossible amour. Elle confesse sa perfidie à la reine Élisabeth, qui immédiatement la destitue de son titre de princesse. Alors, Eboli, repentante mais furieuse, se justifie en invoquant sa beauté, ce don fatal qui lui a été octroyé et pour lequel, eh bien, elle commettait pour la préserver, pour régner, elle commettait des forfaits. N'intéressant pas Carlo et voulant donner la suprématie à sa beauté féminine, elle réalise combien sa trahison a été abominable. Et Verdi écrit encore un air sublime pour mezzo-soprano. « O don fatale !» Je te maudis, ô ma beauté. Écoutons Elena Garancia.
Penso furor mi fece il cielo. Tu che ci fai si vana etere? Thank you.
Cependant, l'Église n'a pas oublié que c'est Rodrigo qui a chaperonné Carlo et l'a conduit à sauver la Flandre contre l'Espagne. Il faudra lui faire payer cela. Et lorsque Rodrigo ira rendre visite à Carlo dans sa prison du monastère de San Justo, eh bien, Rodrigo sera assassiné. Une fois de plus, l'Église s'est portée au secours du trône. Encore un air magnifique pour baryton pour terminer ce troisième acte qui est une pure merveille d'inspiration et de savoir-faire. Écoutons Rodrigo agoniser et se confier à son ami Carlo. Écoutons notre beau baryton français, Ludovic Thésier, qui chante beaucoup actuellement. Bravo à lui. Oh Carlo, ascolta. Oh Carlo, écoute-moi.
Son io, mio Carlo. Uscir tu dei da questo orrendo avel. Ferite ancor io son, se abbracciare ti possio, io ti salverai. Convien qui di reci, convien qui di reci addio. Oh mio Carlo,
pieto è a te, ma
Ainsi se termine ce merveilleux troisième acte, dans lequel Verdi nous a montré toute sa maîtrise et son inspiration, toujours à la fois militaire et spirituelle. Le quatrième acte sera beaucoup plus court, sous forme d'apaisement à cette grande fresque historique. Élisabeth vient rendre visite secrète à Carlo, toujours enfermé dans le cloître de sa prison à San Giusto. Elle commence par rendre visite d'abord à la tombe de Charles Quint, qui aura plané comme un fantôme sur cet opéra. Au comble de la tristesse, elle questionne l'esprit de Charles Quint. Toi qui as connu toutes les vanités de ce monde, maintenant que tu es dans l'au-delà, peux-tu me dire si la douleur perdure encore ? Un air magnifique pour soprano qui se termine par une prière à demi-dite, à demi-chantée, pianissimo. Écoutons Anna Netrebko. Tout que les vanitas, toi qui as connu toutes les vanités. Adieu ici-bas entre Élisabeth et Carlo. Comme dans beaucoup d'opéras, c'est l'impossible amour qui est l'argument définitif. N'oublions pas que Schiller et Verdi sont les dignes représentants de cette fin du 19e siècle romantique. Carlo et Élisabeth se retrouveront dans le royaume des cieux, car ici-bas, l'amour est impossible, ainsi que le voulait la tradition de cette fin de romantisme. Ce sont des adieux mystiques pour clore cet énorme opéra où se sont mêlés des sujets historiques, l'Espagne catholique contre la Flandre protestante, Rodrigo, le militaire libéral, contre l'autorité en place, la vieillesse du roi face à la jeunesse de la reine, et enfin, et surtout, l'impossible amour des deux jeunes gens. Écoutons ces adieux par Roberto Alagna et Alexandra Kurczak. Et Et puis surtout, donnons-nous rendez-vous pour le mois prochain pour une nouvelle aventure d'opéra. Bonsoir.
Yeah.